Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 10 octobre 2020. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Hey, d'abord, je veux saluer ma fille qui va avoir 16 ans demain.
Ça fait
vieillir.
Oui, voilà. Hein? Donc, bonne
16
fête,
ans, c'est l'âge d'avoir le permis de conduire et elle ne le sait pas encore, mais ça va être son cadeau.
Bon. Hein? Fait que c'est bonne fête à jeune Madame Joubert.
Voilà, exactement. Écoute, des actualités rapides aujourd'hui parce qu'on a un invité qui a la parole facile.
Oui, et on a plusieurs questions pour lui.
Exactement. Donc, on va faire ça un peu rapide au niveau des actualités. Bon, d'abord, Jaguar, qui ne vend déjà plus grand-chose, annonce l'abandon de la Jaguar XE, qu'on retrouve quand même dans le guide de l'auto 2021, mais la voiture n'existe pas.
Non, exactement. Donc, chez Jaguar, là, on a tiré la plug en bon français. C'est un modèle qui se vendait déjà vraiment plus. Pour te donner une idée, Antoine, en 2018, on en a vendu un peu moins de 600 au Canada. Et l'année dernière, en 2019, on en a vendu 157 unités. Ça n'a aucun bon sens.
C'est la moitié du nombre d'Alfa Romeo Giulia.
Là. Ben voilà. Et qui n'est pas un gros vendeur.
Non,
là.
C'est ça.
T'sais, donc, c'est vraiment un segment qui est dominé par le trio allemand.
Ouais.
Et je ne serais pas étonné que d'autres manufacturiers finissent par abandonner aussi ce segment-là après avoir essayé très longtemps. T'sais, est-ce que, par exemple, Infiniti reviendrait avec une nouvelle génération de Q50? Je ne sais pas.
Mais considérant que c'est une voiture qui est vendue à l'international sous différents noms, peut-être, parce qu'on la vend au Japon sous le nom de Nissan Skyline.
Ouais,
et disons que l'adaptation nord-américaine ne coûte pas bien, bien cher. Là. Tu changes la grille, les logos, c'est à peu près ça.
On est d'accord.
Mais il y a des...
C'est un segment qui est globalement en décroissance. Donc, c'est certain que pour les joueurs qui n'avaient pas vraiment percé, ben, c'est plus difficile. Et c'était le cas de la XE, qui était quand même audacieuse hein, à son arrivée, parce qu'on avait une version diesel et tout. Mais là...
Que j'avais bien aimé, mais on n'avait pas de valeur résiduelle. On était trop cher. T'es pas capable
et on
n'en
a jamais fait de marketing. Là.
Non, on ne s'est pas forcé. Mais puis quand on a fait la présentation de cette voiture-là, on misait beaucoup d'espoir parce que la voiture est arrivée en même temps que le F-Pace et on savait qu'on vendrait un peu plus de F-Pace, mais à cette époque-là, c'était même pas si clair que ça. Mm-hmm. Alors, c'est vous dire à quel point le marché a vite changé et à quel point Jaguar a rapidement lancé la serviette. Il faut dire que même dans le cas du E-Pace, c'est pas un gros succès. Là. On n'en vend à peu près pas. Là.
Non, exactement. Puis finalement, on avait retiré déjà hein, la XJ qui était la grande berline.
Ouais.
Et là, on retire la plus compacte. Alors, il va rester seulement la berline intermédiaire, la XF, sans oublier la F-Type.
Alors, hier, Germain, on a eu droit à une présentation Mazda virtuelle des modèles 2021 où on nous a expliqué chaque détail sur chaque modèle. Qu'il y avait des petits changements minimes. Évidemment, les éditions centième anniversaire ajoutées à plusieurs modèles de la gamme. Et on a confirmé en fin de conférence que le MX-30, qui serait le premier véhicule électrique de Mazda, débarquerait chez nous dès l'année prochaine.
Oui, je pense que c'était la grande annonce hein, de Mazda cette semaine. On a peut-être un peu de recul par rapport à d'autres manufacturiers chez Mazda. On a toujours misé sur l'optimisation hein, des moteurs à combustion, des moteurs à essence, finalement. Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'arriver en 2020 ou en 2021, c'est-à-dire.
Ouais.
Et donc, c'est ça. On a confirmé qu'on allait commercialiser le MX-30 ici. Les gens se rappellent peut-être, là, on l'avait vu pour la première fois au Salon de l'auto de Tokyo.
Oui, j'étais sur place pour assister au dévoilement. C'est un véhicule qui risque de connaître beaucoup de succès, mais j'ai bien hâte de voir quelle va être l'autonomie réelle de ce produit-là chez nous parce que ça donne pas l'impression d'un véhicule qui va battre des records à ce niveau-là. Pas du tout. tout.
Non, c'est ça. Ça va être un véhicule électrique probablement plus abordable. Et ben, il y a deux versions qui existent pour le moment. Donc, entièrement électrique, comme tu l'as dit, avec une autonomie qui fracassera pas de record, ou une version là avec hybridation légère. On sait toujours pas quelle version va être commercialisée ici, mais tout ça pour dire que Mazda ben, fait un pas vers le millénaire actuel, disons.
Et on a confirmé aussi qu'on n'avait pas d'intention de commercialiser dans les prochaines années la technologie Skyactiv-X qui est vendue au Japon, dans quelques pays scandinaves, ce qui permet d'abaisser la cote de consommation du moteur 2.5, par exemple, à environ 4 litres au 100 km. Dommage, on le fait avec, avec une technologie qui permet d'augmenter encore davantage le taux de compression du moteur. C'est vraiment impressionnant. Mais pour une question de coût et de disponibilité, bien, je pense qu'on a décidé de ne pas offrir ça ici en Amérique du Nord, alors que le marché ne le demande tout simplement pas.
Non, voilà. C'est ce qui conclut les actualités. On a bouclé ça rapidement parce que, ben, justement, après la pause, on reçoit Pierre-Yves McSween, avec qui on va parler de finances, mais surtout d'automobile.
Oui, et de son nouveau char.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, cette semaine, on va parler finance automobile avec quelqu'un qui s'y connaît en finance, peut-être moins un peu en automobile. Du moins, c'est ce qu'il a laissé croire au fil des années à travers les différents médias avec lesquels il a travaillé. On est avec Pierre-Yves McSween. Salut, monsieur.
Salut, ça sent déjà le mépris.
non, absolument pas. Peut-être que tu vas nous en apprendre, puis peut-être que tu vas me faire comprendre pourquoi je suis... pas si riche que ça aujourd'hui, ou particulièrement pauvre, c'est selon. Tout est question de perception. Hein?
Exact.
Évidemment, j'ai lu ton premier livre. Mm-hmm. J'ai pas lu ton deuxième qui vient de sortir, Liberté 45, et c'est une urgence pour moi parce que le 45, ça vient, ça sera pas long.
Moi, j'ai une vingtaine d'années pour le lire.
C'est ça, exactement, c'est ça.
Germain, c'est un jeune vieux. T'sais, il a l'expérience automobile du vieux, mais il est jeune.
Non, il a l'expérience du vieux, point. C'est ça l'affaire.
C'est fou, hein?
C'est ça l'affaire, mais... Mais moi, ben écoute, je me considère équilibré au niveau de mon âge. Le 45 arrive prochainement. Et ben évidemment, j'ai entendu quelques-unes de tes entrevues où tu parlais d'avoir une liberté financière à 45 ans. Il y a toutes sortes de façons d'y arriver.
Mais toi, de ton côté, Antoine, tu as la liberté de choisir l'auto que tu veux pendant une douzaine de journées consécutives, puis l'auto va être différente. C'est une autre forme de liberté.
Oui, c'est une liberté financière de ne pas avoir à payer d'auto, mais c'est un attrape d'être tellement drogué automobile, voilà. De s'en acheter quand même puis de mettre bien des sous là-dedans.
Faut alors que j'en... Ou...
Oui, il faut les stocker, il faut les plaquer, il faut les
entretenir,
assurer.
Parce que c'est capricieux, les autos-là. C'est
Germain, il faut qu'il vernisse son bois sur ses voitures.
Oui,
le bois. Mais Antoine a aussi plus d'un véhicule garni de bois.
Le premier véhicule de mon père, c'était une espèce de station wagon là, avec du bois puis du bleu ciel.
Oui.
Et des fois, quand il y avait de l'eau, il fallait lever nos pieds. Parce qu'il y avait de la... Ça, c'est pas que là, les fonds d'auto, ils rouillaient. Puis là, il fallait venir au pied parce que l'eau rentrait, on niaisait, tu sais.
Ouais.
On passait une flaque d'eau, puis il y a des scènes noires qui tombaient dans la rue.
Oui, mais ça te fait des bons souvenirs,
ah,
aujourd'hui.
Ah oui, c'est des bons souvenirs. Voilà.
N'est-ce pas?
Puis la valise qui s'ouvre.
Si ton père avait conduit une vulgaire Corolla, tu t'en souviendrais même pas.
Peut-être. Hein? Ça sonne pas ça de collection aujourd'hui. Alors,
toute chose étant relative. Évidemment... J'ai envie de parler finance automobile avec toi parce que on se fait souvent poser des questions du genre je devrais-tu louer ou acheter, je devrais-tu financer sur jusqu'à combien de temps, qu'est-ce qui est logique. Puis évidemment, en lisant ton livre, tu y vas de façon assez drastique avec une automobile en disant garde, c'est probablement le pire achat que tu peux faire en termes de placement financier.
Ça, oui,
et là-dessus, t'as raison.
Mais c'est pas. Il y a du cœur aussi dans l'automobile, je peux comprendre ça. Il y a de la passion.
Ce que t'as pas nécessairement exprimé dans ton livre.
Non, mais, mais il faut savoir aussi que pour 99 % des consommateurs, l'automobile est simplement un moyen de transport.
Ah, c'est pas vrai parce qu'on roulerait tout en Pontiac Wave. Tu comprends?
Oui.
Tu sais, il y a personne. Tout le monde est influencé quelque part par le marketing parce que. Même moi, je trouve ça beau une belle voiture, puis je trouve ça laid un pas beau char. Sauf tes laits chars à toi, parce que ça devient des pièces de collection telles. Ils ont dépassé le côté laid, ils sont rendus vintage kitsch.
Voilà.
Mais en général, une voiture, On dit que c'est le prolongement de notre personnalité, ça, j'en doute, là, mais...
T'as une méchante personnalité, mais, Germain, si je regarde la grosseur de tes voitures, là.
Mais vous deux, avec vos collections, vous êtes des mégalomanes, probablement. Mais, non, mais c'est vrai que ça influence. On est perçu. Juste à dire, quand je change de voiture, je remarque le regard différent des gens sur moi quand ils me voient sortir de l'auto. Et c'est complètement un peu ridicule quand tu y penses.
C'est très superficiel.
Mais oui, parce que ta voiture, une fois qu'elle est stationnée, t'as la même personne. Dans la conférence, je disais tout le temps... Sur le livre, je disais tout le temps, si vous voulez une voiture de luxe pour le prestige, achetez-vous un porte-clés. Comme ça, dans les 5 oui. à 7, vous droppez le porte-clés sur la table.
Bien, c'est donc les compagnies automobiles. Mais les compagnies automobiles ont compris ça depuis longtemps. Ils nous font des clés de voitures aussi grosses que des télécommandes de télévision avec un logo 4x8 dessus.
Oh, oui.
Pour être certain que tu peux lancer ça sur le bord. Bon, là, lancer ça sur le bord de ce temps-là, c'est dur parce que les barres sont fermées.
Faut que tu le lances plus loin.
Puis lancer un Tercel, là, c'est pas. T'sais, BM, oui, va être ostentatoire, tout ça.
Oui, mais si tu déposes ton portefeuille qui a 4 pieds d'épais à côté d'une clé de Tercel, il y a quand même quelque chose de weird avec ça aussi.
Il y a beaucoup de factures.
Il y a beaucoup de factures, c'est ça. Exactement. Mais je veux t'entendre sur ce que tu penses du financement à long terme, sur la location à long terme des véhicules, parce qu'on est rendu, avec des financements sur 96 mois. On est rendu avec des locations sur 64 mois des véhicules.
On parle pas d'hypothèque, là. On parle de payer une location.
Avec un terme à la fin, plus d'autres, il y a un montant à la fin à payer encore.
Bien, tu sais, je vais te donner un exemple. Là, c'est, je pense que c'est Nissan qui faisait ça récemment, une location sur 5 ans et demi pour un Nissan Rogue ou 5 ans et 4 mois sur un Nissan Rogue. Après quoi, tu rachètes le véhicule pour probablement 7-8 000 $. Mais ce véhicule-là, pendant 5 ans et demi, il faut toujours bien que tu l'entretiennes. Il va falloir que tu changes des pneus, des freins. Il va falloir que tu fasses tout le travail que le concessionnaire ferait avant de la revendre. Mais c'est toi qui vas le faire avant de remettre les clés. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que sur les financements à long terme, il y a beaucoup de surfinancement. Et pour avoir parlé avec des gens de la BMO notamment, il n'y a pas de légifération au Québec par rapport au surfinancement d'un véhicule. Tu peux acheter un véhicule de 35 000 $, mettre un surfinancement dessus d'une dette d'un ancien véhicule jusqu'à 200-220 %, puis si le directeur commercial est efficace, ça pourrait passer.
Qu'il faut quand même de financer un actif...
Qui est déprécié.
Qui est déprécié, puis financer un ancien actif sur le même prêt. Mais revenons à la base, au départ.
Ouais.
Un véhicule, c'est un véhicule. T'achètes, tu loues, tu le finances, t'achètes la même bébelle.
Ouais.
Après ça, c'est une question de choix puis de marketing. Un, dans le prix du véhicule, à force d'amener les paiements mensuels, parce que si on retourne dans les années 80, vous vous souvenez de l'annonce de Festiva?
Festival avec Martin Drainville.
Mais tout ça. Puis
et ce que j'aime, c'est que Germain dit oui, je m'en souviens, mais il était pas né.
Ben, je l'ai vu sur YouTube. Voilà, c'est le clash de génération.
Il y avait le prix du char dans l'annonce.
Ouais.
Où tu avais Jacques Duval, la Ford Tempo et la Mercury Topaz.
9995.
Ben, tu sais, le prix, là. Donc, tu savais le prix que tu payais. Et après ça, on commençait à faire des paiements mensuels, comme tu dis, puis les gens sont. Et là, ce qu'on vend, c'est un paiement. Et dans le fond, on veut vendre le plus beau char pour le plus petit paiement possible.
On le vend la semaine maintenant.
Et donc, dans le prix, puis si tu veux le payer comptant, ta voiture, tu n'auras pas un deal de fou parce que le paiement, c'est écrit dans les états financiers des concessionnaires automobiles, des constructeurs, excuse-moi. Voici la portion en comptabilité qui est attribuée au financement. C'est-à-dire, disons qu'on te vend une voiture à 28 000, puis on dit qu'il est financé à 0,9 %, bien... Dans le 28 000 que tu payes, il y a de l'intérêt payé d'avance parce que la voiture ne vaut pas 28 000. Et donc, on a commencé à faire payer aux gens qui payaient comptant l'intérêt payé d'avance parce qu'on n'était pas capable d'offrir 0,9. Aucune compagnie peut offrir 0,9 %. Quand tu vas voir ces états financiers qui se financent à 3, 4, 5, 6, 7 voir qu'un constructeur te dirait « Hey, je vais emprunter de l'argent à la banque puis je vais te le prêter moins cher à toi. »
Voilà.
Donc, on
s'entend. Ils ne font pas de faveur.
Il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de cadeau. Ça, on le sait tous. Après ça, la location, je suis pas contre. Mais d'un point de vue financier, bon, ça dépend du modèle aussi, là. La location, c'est un financement. Des fois, tu peux louer une voiture, puis dépendant de l'année que tu prends puis du moment de l'année, ça se peut que le taux de financement sur la location soit si intéressant avec la valeur résiduelle en fonction du kilométrage que tu fais que tu te dis, j'aime mieux la louer 3 ans avec le financement actuel puis acheter le buyback dans 3 ans que de l'acheter sur 5 ans au taux de financement 5 ans.
Sauf que là, je t'arrête tout de suite parce que tu penses de façon très rationnelle. Et la plupart des gens qui vont louer sur un terme de 4 ans ou 5 ans, c'est souvent des gens... Ben d'abord, c'est une
stratégie. Pas nécessairement l'intention d'acheter le véhicule.
Ben non,
non, enfin, non.
C'est une location.
On parle de même pas 5% des gens qui rachètent des véhicules à la fin du terme.
C'est si peu que ça.
Et on parle, dans le cas des véhicules japonais, il y a une, je dirais pas une majorité, mais il y a un gros pourcentage de gens qui ne se rendent pas à la fin du terme parce que le concessionnaire rappelle au bout de 3 ans et demi, puis il dit « Ramenez-moi votre véhicule, je vais vous rasseoir dans un véhicule identique
pour le même paiement. »
Le problème, c'est que quand tu fais ça, évidemment, quand lui a loué son Honda Civic en 2016, que le modèle venait d'arriver sur le marché, il était super hot, on le vendait au prix d'envite, le taux était à 4,9, etc., parce que c'était la saveur du mois. 3 ans et demi plus tard, la voiture est encore pareille. C'est plus la saveur du mois. C'est le même modèle. On met des rabais sur le véhicule. On a baissé le taux de financement. Les résiduels, on est capable de jouer avec.
Puis on va être encore capable de la revendre à profit sur le marché d'occasion.
Mais attends, le véhicule qu'on veut revoir ta 2016 parce qu'on sait qu'on va faire de l'argent une deuxième fois avec en en vendant comme véhicule d'occasion.
Surtout que 2016 a roulé 14 000 km en plus.
Ben voilà. Mais quand tu fais ça, tu accroches ton client comme du monde parce que là, évidemment, tu lui fais pas de faveur. Lui, il pense que tu lui fais une faveur, mais en quelque part, tu viens de l'hameçonner comme du monde.
Pour 4 ans encore.
Pour 4 ans. Et là, il pourra pas refaire ça une deuxième fois parce que la valeur de sa voiture sur le marché d'occasion n'est pas la même parce que l'intérêt du public pour ce produit-là n'est plus le même. Et c'est comme ça que des concessionnaires Honda ou Toyota vont accrocher Kia parce qu'en plus, chez Kia, on n'a pas de valeur de revente.
Non, voilà.
On va accrocher des clients puis on va les tenir par la gorge.
Mais plus est, il y a une affaire que tu oublies peut-être ou que tu ne veux pas mentionner encore, c'est que oui, ton affaire de buyback de valeur, ça, c'est le calcul rationnel, mais il y a un autre calcul beaucoup plus rationnel. Si je finis le paiement d'une location puis que je la remets au concessionnaire, là, c'est comme un peu un célibataire qui revient sur le marché. Il est célibataire de l'auto. Là, il peut aller chez Chrysler. Ben, peut-être pas Chrysler. Il est là de l'ailleurs. Mais c'est encore pire. T'es mieux le signer à rabais pour 4 ans de plus qu'en perdre 1 sur 3 qui vont aller à la porte d'en face. Et ça, c'est des cash flows perdus. Donc, si vous avez 1 an à votre contrat et qu'il reste encore 1 an, vous avez beaucoup plus de négociations potentielles le jour où tu t'en vas reporter ta voiture de l'occasion.
C'est sûr.
Puis là, tu t'en vas la reporter. Puis là, il te dit, ah, ben là, non... Je m'en vais en face. C'était mieux de me faire un maudit bon deal. Fait que,
mais c'est pour ça que chaque concessionnaire a des spécialistes en renouvellement et qu'au moins 6 mois d'avance, on va te contacter.
Des closers.
Ben oui. C'est des gars qui sont. Ils sont même pas sur le plancher à vendre des voitures. Là.
Ils font que du renouvellement. Voilà.
Ouais. Puis là, regarde les contrats qui viennent atteindre en dedans d'un an.
Ben oui.
Puis on dit, regarde, paye tant. Ah, viser un nouveau char pour le même paiement. Il va dire, oui, mais un paiement, c'est ça qui est drôle en plus. T'sais, un paiement, ça veut rien dire. Surtout que si l'étalonnement change, donc tu as des gens qui sont en train de se dire, OK, j'ai profité de 28 % de la valeur du véhicule, j'en ai payé 50, je vais re-signer pour un autre véhicule que je vais profiter de 28 % de la valeur.
Mais tu n'as jamais d'actif.
Voilà. Mais tu n'as jamais de temps non plus. Moi, ce que j'aime, c'est la... Tu sais, GG m'a déjà fait une entrevue là-dessus. J'avais une vieille voiture à 2000... En 2011, j'avais acheté une voiture 1998 qui roulait depuis 1997.
Ouais.
Je l'ai gardée 5 ans. Cette auto-là était complètement dépréciée. Ça me coûtait 12 ou 15 $ par mois d'assurance. Ça me coûtait 1 000 $ en rénovation. J'ai mis peut-être 1 500 $ dessus en 5 ans.
Ouais.
C'est rien. Je l'ai payé cash. C'est rien, puis j'ai payé ça avec, t'es content, avec ma carte de débit. Tu arrives au concessionnaire, à SAC, complètement amorti. Aucune valeur de taxe là-dessus.
Non, c'est ça.
Il n'y avait rien. Ça m'a rien coûté. Ça m'a coûté moins cher qu'une guitare.
Oui, absolument. Et la beauté de la chose, c'est que les gens ne le réalisent pas, mais d'entretenir une voiture, parce que les gens louent dans l'optique de ne pas faire d'entretien, minimum, ça, on redonne les clés.
Ça, c'est vrai quand on loue 3 ans.
Oui.
Mais c'est moins vrai que plus on étire la location.
Oui, 3 ans, il faut être riche. Quand tu veux louer de 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, mais tu payes 3 fois la valeur des véhicules à un moment donné. Là.
Ben, et c'est que tu payes tout le temps. C'est comme...
C'est comme un loyer.
Voilà, c'est à peu près ça.
Ce qui est drôle,
parce que tu te ramasses à payer, puis au bout de 3 ans, ben, tu redonnes l'auto, mais t'es à pied, tu repars en autobus.
Elle dit que louer une maison, louer un appartement, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, va payer 800 $ par mois pour son 4,5 sur la rive sud de Montréal. Va dire, c'est donc épouvantable, 800 $ par mois. Puis en même temps, il s'en va donner un concessionnaire la valeur du bien sans en profiter pour le proportionnel de la valeur du bien. Et moi, j'adore le sweet spot après location 3 ans.
Oh, ah oui.
Tu rentres là-dedans, ça sent encore le cancer. Tu sais, c'est encore là, les COV sont encore bien palpables. Tu sens que c'est une deuxième voiture qui était dans le garage dans le West Island. Tu regardes le compteur. Le compteur, tu pars le véhicule, puis là, le moteur dit « Excuse, je suis pas habitué de partir. Je vais me réchauffer un peu.
Ouais. »
Puis tu dis « OK, il pourrait me le vendre comme neuf, puis je l'y croirais. »
Ouais.
Puis ça, puis là, le modèle n'a pas changé. Ça, c'est autre truc. Hein? Quand t'achètes un véhicule usagé...
peut-être pas la dernière technologie, mais tu sais, en allant chercher un véhicule qui de
deux ans modèle.
Ou trois ans, là, c'est pas si pire.
Le truc, c'est de prendre le modèle qui n'a pas changé. C'est d'acheter la dernière année qui n'a pas changé. Et c'est Charles Lafortune qui m'avait donné ce truc-là. C'est drôle, hein? Il m'avait dit... J'avais marqué dans sa voiture, puis il m'avait dit, ça, Pierre-Yves, tu sais que c'est pas le modèle. L'année, c'est un modèle qui a 3 ans, 4 ans, mais tous mes voisins qui ont ce modèle-là pensent que j'ai le modèle de l'année. Mais j'ai le modèle de l'année, c'est le même qu'eux autres, mais c'est juste que je l'ai payé la moitié du prix.
Donc, il est un des leurs sans être véritablement comme les autres.
Comme moi.
Oui, oui. Voilà. Mais en même temps, encore faut-il que tu achètes un véhicule qui garde une certaine valeur sur le marché d'occasion, tu sais.
Et un véhicule qu'on va être capable d'entretenir parce que...
Mais moi, je l'ai dessus, mes véhicules. Fait que si j'achète et qu'il n'y a plus de valeur, ça ne me dérange pas. Je vais le battre jusqu'à la
fin. Oui, mais il y a quand même des impondérables. Ouais. Tu te le fais voler, tu as un accident avec, il arrive quoi, tu sais? Si tu achètes un Toyota RAV4 demain matin, ils vont te le vendre le prix d'envite à financer un taux de 5 %. Tu n'en auras pas de cadeau. Puis si tu t'en vas chez Chevrolet, on va te vendre un Equinox à 4 000 de rabais à 0 % de taux de financement. La vérité, c'est que ton Equinox, il va manger 50 % de valeur en 2 ans, puis ton RAV4, il va en perdre 20 %. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut que tu considères. Oui. Mais demande pas à la clientèle moyenne d'être à l'affût des dépréciations de chacun des véhicules sur le marché.
C'est peut-être beaucoup demandé. Mais en achetant un véhicule de 2 ans ou 3 ans d'âge, dans le but de le garder un autre 5-6 ans... Là, il faut savoir que ben il faut l'entretenir.
Oui.
Puis là, je fais un clin d'œil à Pierre-Yves. Donc, quand on va chercher un véhicule peut-être moindrement luxueux allemand, tu sais, ça demande un entretien rigoureux. Bon. Ça demande un peu plus d'attention qu'une vieille Honda Accord.
Mais l'affaire qu'il faut savoir, c'est que, un, jamais dans 100 ans, même si t'as encore sa garantie, tu vas faire tes entretiens chez le concessionnaire parce que les gens savent pas que t'es pas obligé. L'important, c'est de respecter les pièces, respecter l'entretien, mais va pas faire ton changement d'huile chez Audi ou chez BM. Ils vont te charger bien trop cher, tu sais. Donc, tu peux faire l'entretien.
C'est-à-dire que c'est vrai dans le cas des véhicules que tu viens de nommer. Ça, c'est évident. Mais si tu as une Honda Civic, d'aller faire ta vidange d'huile chez Honda versus d'aller chez Fast Lube, etc.
On parlait de véhicule allemand, là.
Celui que tu viens pas de t'acheter, là.
Celui que j'ai acheté, mais juste à dire que... Puis là, je vais vous faire une petite aparté de l'ensemble de mes véhicules, faire rire un peu.
Oui.
Le premier véhicule que j'ai eu, c'était à deux. Là, on avait acheté un restant de néon Chrysler. C'est quand même un char de mal, faut dire. Après ça, on avait...
Donc, une demi-néon pour commencer. C'est des débuts qu'on pourrait qualifier de modestes.
Ah oui, après ça, Communauto, un bon bout. Communauto, j'ai été un gros client pendant quelques années. Après ça, avec l'arrivée...
Tu t'es promené avec des voitures, avec des pare-chocs égratignés aux quatre coins pendant plusieurs
années. Des capteurs manquants.
Vous êtes tellement plein de préjugés, mais bon, présentement, j'ai
roulé... C'est totalement fondé,
j'ai roulé une Communauto récemment, puis je vais vous dire que véhicule électrique ou semi-électrique, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça dans le marché, donc c'était cool. Après ça, j'ai eu une Subaru Legacy. Là, j'ai découvert les moteurs plats usagés.
Ouais.
Les moteurs plats usagés, ça veut dire que tu t'en vas chez le concessionnaire ou chez le garagiste, puis là, tu dis le plein, oui, le plein d'huile, le changement de gaz.
Oui.
Ça buvait l'huile parce qu'à un moment donné, il se décèle, il brûle, le moteur plat, ça plonge plus dans l'huile. Anyway, ça me dit plus jamais de
Subaru. Puis là, t'es dans le milieu des années 90.
Non, j'étais en 2000. C'est un véhicule 2011 acheté en 2007 acheté en 2011.
Okay.
C'est le dernier Subaru Legacy avant que les hardbacks arrivent et qu'ils enlèvent les Legacy Wagon. Après ça,
c'était probablement le H6 3 litres à ce moment-là.
Non, c'était un 2.5, ça.
2.5?
Ouais.
Puis j'avais 2.5 litres. Puis j'avais acheté aussi, en parallèle, la fameuse Honda Accord.
Oui.
Puis j'allais en travailler au cégep. Puis là, le monde dit « Oh, mais tu roules pas, tu roules pas. » Je faisais 39 km aller-retour chaque jour. Fait qu'un 80 km, 70-80 km par déplacement, je l'ai acheté à 166 000 km, puis je l'ai revendu. Puis la personne, je le revends un an plus tard, puis elle roulait encore.
Puis elle était très contente, voilà.
Ben oui. Fait que tu vois, le pire, c'est que le plein était matériel quand je l'ai vendu. Ça, c'est drôle. Tu vends quelqu'un un char 850$, puis tu lui fais le plein, puis tu dis « Hey, je viens de déprécier ma voiture. »
Absolument. Ben ça,
oui, parce que le 50$ d'essence, ça fait une différence.
Mais c'était
là,
pas pour ça, je vais le donner l'auto. Oui. Mais ce qu'il faut, après ça, j'ai eu ça. Puis après ça, j'ai roulé?
La Mazda 5?
La Mazda 5 mon père, que j'ai eu à prix d'amis. Donc, évidemment, ça, c'était rentable. Même si c'est pas une voiture que j'apprécie. Non, mon père avait choisi la bleue poudre. Probablement que le gars, il a fait un prix. Là. Mais la bleue poudre métallique avec le wag...
Avec la vague dans les côtés.
La vague lettre. Là.
Oh
puis on s'entend-tu que c'est comme une... Ça, c'est pas une plateforme de minivan. C'est une plateforme de voiture avec un minivan
dessus. C'est en fait une voiture recarrossée. C'est un châssis dérivé de celui de la Mazda 3.
Mm-hmm. Ben, ça paraît. Tu sais, quand tu te promènes, ben toc-toc-toc, puis tu es assis dedans. Mais le gros avantage, c'est quand même un 6 places. C'est un 6 places d'occasion.
C'est un 6 places d'occasion, mais si... Moi, j'ai toujours dit que les familles qui avaient plus que deux enfants puis qui achetaient ça, ça n'avait aucun bon sens parce que tu as seulement deux places à la rangée médiane. Et à partir du moment où tu as un troisième enfant, tu es obligé d'utiliser la troisième rangée, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu n'as plus de coffre du tout.
Ah non, donc, tu n'as même pas de place
pour
mettre la sac à gauche.
Moi, j'ai un contre-argument pour toi. Le coffre existe encore comme ça en arrière. Là. Il existe encore une fois que tu as les... Comme dans n'importe quel VUS.
Je te rappelle qu'on est à radio, puis quand même que tu fais des signes.
Quand même que tu dis comme ça avec deux mains.
Le coffre, tu peux encore mettre un sac d'hockey dedans, mais il est tête. Là, j'exagère, un sac d'hockey. Mais tu peux surtout, si tu as trois enfants, tu pouvais mettre plier un banc sur deux en arrière pour avoir un demi-coffre.
Un demi-coffre.
Il faut être honnête. Mais c'est l'avantage. Par exemple, quand tu as du monde à transporter, tu le transformes en minibus. Puis quand tu n'as personne à transporter, c'est un beau 4 places avec un grand coffre.
Est-ce que c'est rentable d'avoir trois enfants? C'est une autre question.
Non, moi, je n'en aurais pas trois. J'en ai eu deux. Mais ce que je fais aussi, c'est que moi, tant qu'à avoir une minivan, pour vrai, moi, j'étais très fan de dire au monde, achetez-vous une Chrysler, comment il s'appelle, la Dodge, l'auto beaucoup, là?
Grand Caravane.
Pourquoi? Caravane? Parce que quand tu couches les bancs, il y a une feuille de 4 par 8 absolument. Qui rentre dedans. Et ça, il n'y a pas grand auto qui t'offre cette option-là.
Mais
et...
est-ce que tu transportes une feuille de 4 par 8
si souvent? Moi, j'ai rénové deux duplex. Hein? Je peux te dire que j'aurais aimé ça. Et moi, je pense à tous ces gars de construction qui s'achètent des Ford F-150, transporter leur coffre à outils, puis une feuille de temps en temps. Achetez-vous une Dodge Caravan.
Oui, mais arrivera sur le chantier avec ta Dodge Caravan.
Ah, mais ça, c'est la masculinité toxique, comme disaient les féministes. Je connais. Absolument. Parce que, ça sert à rien.
Oui, t'sais. Parce qu'à cette heure, si tu te présentes sur un chantier avec juste un F-150, déjà là, t'es border. Ça te prend un F-250 Super Duty minimum.
Avec de la double empattement en arrière.
Les roues doubles, le kit au complet.
Et le chrome.
Faut que t'ailles payer plus que 100 000.
Après ça, ça se plaint que ça n'a pas une grosse retraite. Tu sais, je veux dire, 60. À un moment donné, c'est drôle, le gars, il arrive chez nous, le jeune, il commençait en construction. Tu sais, il avait, mettons, je dis commencé, il y a 30 ans, mettons. Ouais. Tu sais, il y avait le gros F-150 ou 250 plus
la remorque.
La remorque. Qui fitait.
Mais ça, c'est l'exemple typique d'un ami à moi qui travaillait sur un chantier de construction. Lui avait un petit Ford Ranger. Tous ses collègues avec des gros Chevrolet, des Ram, des F-150 super luxueux.
Mais lui, il partait en voyage.
Mais lui était le seul à avoir un chalet dans la gang.
Ben voilà.
Tu sais, ça dépend.
Autoconstruit.
C'est ça.
Au noir.
C'est ça. C'est ça. Avec tous les restants qui traînaient sur le chantier.
Exactement.
Exactement.
Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, mon amour aux autos a toujours été non cartésien. Cartésien, c'est-à-dire. Donc, si tu prends le total de ce que j'ai payé ma part des voitures, c'est pas vraiment matériel d'un budget. Puis là, à un moment donné, arrive que tu arrives à la réussite financière relative, puis tu te dis, je vais me gâter à moitié. Je vais me prendre...
Quand tu dis à moitié, c'est-tu parce que c'est toi qui as pris la moitié de la décision?
Non, je me suis gâté à moitié.
Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu une influence là, non, au niveau de ton choix de véhicule.
C'est que là, je cherchais un véhicule parce que là, le mien, il m'a demandé, j'ai un entrée en pente. Tu as aussi un entrée en pente vers la maison?
Oui, absolument.
Puis une Mazda 5, ça spin de dessous, même avec les meilleurs pneus au monde. Puis là, j'étais tanné, là, c'est comme vraiment tanné. Puis là, il commence à être usé, mais je dis, ça ferait un beau char, un beau deuxième véhicule pour une famille. Moi, si quelqu'un m'approchait, me dit, je vais te l'acheter à 5 000$, je te le donne. Là, il y a 140 000 kilos, il va rouler encore une couple d'années.
Mais ta conjointe suggérait qu'on fasse un enchère, qu'on parte ça à 5 000 puis que tous les montants supplémentaires amassés iront à des dons de charité.
Ah, même, je pourrais faire mieux que ça.
Et Carole si Shelby on... signait, lui, les coffres à gants. Je pense qu'on pourrait faire la même chose.
Ah, oui, signe ton coffre à gants de Mazda 5. Ouais.
Écoute, mais mettons que tu as ça. Mais j'ai dit, bon, là, elle m'a montré les top 5 des véhicules. Elle dit, moi, si je m'achète un véhicule usagé, ça serait un Q5. Puis là, elle dit, garde, c'est le mieux coté selon... Mon ami GG, je dis OK.
Je refuse d'insister hors non. contexte.
Non, mais en tout cas, coût-bénéfice, mais c'est sûr que GG, lui, il doit trouver sa chambre un peu. Mais il faut comprendre de où je suis parti. On va reculer, excusez-moi. Ouais, la vraie décision était la suivante. Je voulais m'acheter un RAV4 usagé.
Ouais. OK.
Parce qu'il est bien coté, bonne grandeur, deux enfants.
Tu vas l'avoir longtemps, tu vas l'étirer jusqu'à la fin. Bon.
Là, le concessionnaire, il essaie de te vendre des RAV4 usagés le prix d'un neuf, pratiquement. Et c'est là le bas qui blesse. Il n'y a pas assez de dépréciation. Ouais. Fait que là, ça me choquait un peu. Mais tant qu'à ça, tu n'achètes un neuf, puis là, ça va contre mes valeurs. Puis là, le vendeur.
Puis là, tant qu'à regarder les neufs, tu as regardé les hybrides rechargeables.
Non, mais le gars, il m'a dit, chez Toyota, il dit attends une minute, en 2020, il y a le RAV4 Prime qui s'en vient, qui est 70 km d'autonomie électrique. Oh, là, il y a Il a frotté ma fibre.
Il t'a-tu dit qu'il y avait 300 chevaux, 4 roues motrices, capacité de remorquage? Non, c'est pas rendu
long. Il m'a juste dit que coût-bénéfice. Fait que là, il m'a dit il va partir peut-être à un prix raisonnable. Moi, la subvention, tu pourrais l'avoir dans les 30 000. Mais là, écoute, c'est. Tu sais, je comment.
Oui.
Mais là, le fameux char sort. La même maudite stratégie de Tesla. Le modèle qui sort, c'est pas le modèle SE, c'est le modèle avec l'équipement.
55 000 piastres.
Ouais. Fait que 60 000 piastres, taxes incluses, moi, la subvention. T'es encore à 50 000.
Ouais. Pour un RAV4, là.
Pour un RAV4. Oh, il recharge 63 km l'hiver, l'été. Mais l'hiver, tu vas tomber à 32. Puis il faut que tu aies une prise électrique. Bon, OK, ça peut être le fun, là. Mais c'est pas assez un deal pour que je me dise « Wow, c'est rendu électrique ». Tu sais, donc...
Ben, c'est-à-dire...
Rendu à ça, je vais m'acheter une Tesla, tu sais, il y a 5000 km. Là. Il y en avait avant, un gars qui a vendu 44 000
ouais.
avec la petite batterie à 300.
Je confirme, par contre, que t'as mieux composé ouais. avec le service ben... d'un concessionnaire Toyota que d'un dealer Tesla.
Ben, ça, c'est que Tesla, on s'entend-tu que j'ai une entrée en pente, la Tesla, elle touche à terre pratiquement. Là, ouais, tu sors ouais. ton entrée... Fait que j'ai dit non. Puis de toute façon, bon, c'est une Tesla, c'est pas mes affaires. Fait que là... J'ai dit, je vais essayer ça. Puis le gars, il m'arrive avec son prix de 50 000. J'ai dit, désolé, M. Toyota, mais là, c'est un RAV4, là. Tant qu'à ça, je vais me chercher un modèle de luxe. Je vais au moins être flashé un peu, même si c'est pas dans mes valeurs. OK,
fait qu'il y avait quand même une estime de...
Non, mais surtout que 50 000...
dans cette sphère-là... Ouais.
C'est comme le monde qui pogne des Mazda puis qui est pimp. Pimp pas une Mazda. Va te chercher un char un peu plus de luxe de base.
On t'sais. Salue les gens de Mazda
non,
Canada
mais,
ici.
Non, mais ce que je veux dire, c'est mettons que t'as une Mazda puis tu mets l'aileron, le subwoofer, nanana, tu mets 10 000 piastres d'options dessus. Mais pas 10 000 piastres d'options sur une Mazda. Achète-toi une voiture plus luxueuse de base.
Une Mazda 5 GT Spec.
Ouais.
Ouais.
Tu sais. Bon. Mais c'est comme chez Toyota, ils ont une voiture, super sport. Je sais pas comment elle coûte, 70 000, j'imagine.
Ouais, à peu près.
Ben, tu sais, j'ai l'impression d'une Porsche usagée, tant qu'à ça. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais peu importe. Fait que. Je l'achète pas finalement. Mais là, je m'en revire les RAV4 trop chers, je fais quoi, nanana. Puis là, on va voir les Audi pour le plaisir. Puis là, t'as le modèle Comfort qui est comme le modèle tout.
Mais ton exercice, moi, c'est ce que je suis curieux.
Mon exercice, c'est que le RAV4 était usagé, était trop cher par rapport à ma logique des RAV4
mais
usagés.
Pourquoi le nom Audi est arrivé dans ta tête soudainement?
À cause du top 5 des. Moi, je me fie aux experts qui disent voici ce qui est rentable, ce qui est pas rentable. Donc, t'avais le RAV4 dans les ordinaires.
Ouais.
Puis t'avais le Audi Q5 dans les
premiums.
Bon.
OK.
Fait que là, moi, je fais le tour des concessionnaires, je regarde des prix, tout ça. Puis là, évidemment, là, ça aussi, tu te fais embarquer un peu parce que là, je regarde le Comfort. Tu sais, je passe du RAV4 Prime à 50 000. Puis là, je tombe avec le Audi Comfort usagé 30 000 km à peu près 32, 33 000. Sauf qu'une fois que tu t'assois dans le Comfort, tu dis « Ah, c'est le modèle progressif que je veux. Là. Moi, je veux un toit ouvrant. Tu sais, je veux quelque chose, tant qu'à ce prix-là. » Puis là, whop, là, tu tombes dans l'autre game.
Voilà.
Puis là, j'ai magasiné. Finalement, je laisse tomber ça. Pendant une couple de semaines, je t'offre mon char. Puis là, un moment donné, en les regardant sur Internet, j'en vois un chez. Dans le West Island. Je dis, ah, le West Island, c'est parfait. Personne ne me connaît. Je ne vais pas me écœurer quand je vais aller magasiner ça. Fait que j'y vois.
Mr. McSween, how are you?
Malin, c'est ça. Non, c'est surtout que
Do
j'ai.
Do you
été...
really need it?
Non, je suis arrivé là. C'est beaucoup plus de. C'est un stunt, les caméras sont hauts, comment ça marche. Ouais. Fait que j'arrive là, puis le gars, clairement, il ne voulait pas me vendre son Q5. Il dit, bon, encore un ado avec une casquette de la police qui débarque, tu sais, parce que c'était vraiment ça que j'étais habillé. J'arrive avec mon jeans, ma casquette de la police commémorative. Là, puis je vais le Q5 noir. Il dit, il est pas là, mais tu sais, il était marqué beige. Ça, c'est l'autre affaire. Une auto beige. Tu sais. Quand tu rentres dedans, le Q5 beige, il y a deux bancs à cuir beige, en arrière beige, mais tout le reste est gris comme le
mais boîte. Ça fitait bien avec ta profession.
Ça fitait bien avec ma profession comptable. On est propre. Alors, tu comprends.
Puis par rapport à une Mazda 5 bleu poudre avec des vagues dedans.
Bon, oui, puis on s'entend, ça flash. Puis là, l'autre affaire, c'est que ça roule. Ouais. L'autre affaire que vous savez pas, c'est que j'avais rencontré un gars qui m'avait approché sur Facebook. Il disait, hey, moi, je deal des autos de même. Puis j'ai rencontré un gars qui en a une peut-être à vendre. Fait que là, je vais voir le gars, j'essaie son char, mais il était pas sûr de le vendre. Finalement, il s'est ravisé, mais j'avais essayé le Q5. Je dis, hey, wow, méchant changement, on s'entend. Tu passes d'une Mazda 5 à ça, c'est comme passer d'une boîte de savon à une F1. Tu sais, je me sentais vraiment de même. Puis le système de son, moi qui tripe musique, sonne enfin autre chose que la canne de bin.
Oui.
Donc, j'essaye ça, puis bon. Mais là, le problème, c'est que le modèle progressif que je veux, c'était pas 38 000 qui était. Il était comme souvent 44, 45. Puis là, tu dis, tabarouette, à 44, 45, puis c'était rendu encore.
Finalement, c'est ça, on va aller chercher un RAV4 Prime.
Mais j'arrive dans le West Island, puis là, c'est trop beau pour être vrai. Q5 2018, donc le dernier modèle, 16 000 km. 3 ans d'usure, là, 16 000 km.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Ben, c'est justement un riche que. Écoute, il y avait un. Ça m'a donné une idée d'ancien propriétaire.
C'était la voiture
là.
De la bonne.
Ah, mais écoute, il y avait un CD de Luc Plamondon dedans. Ça donnait une idée comment que c'était. Non, j'ai eu un jugement sur personne.
C'est un peu surréel, tout ça.
C'était surréel, il y avait un CD parce que le CD.
Je savais même pas que le CD de Luc Plamondon s'était rendu si loin dans l'ouest de l'île.
Mais je savais même pas que tu pouvais avoir un CD dans un char récent.
Oui.
Fait qu'il est caché dans le coffre à gants. Moi, il faut dire que je partais d'un modèle à cassette.
Dis le gars que c'est ça qu'il y avait un lecteur cassette.
Fait que là, tu sais. Fait que là, j'arrive avec mon auto, puis là, je dis au gars, là, il est 38 000. Mais là, 38 000, là, t'es plus d'un prix. T'es plus, t'as le 20 000 de moins de dépréciation. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr qu'il y a un carproof là-dessus. Mais moi, ça me dérange pas si le frame, il va voir le carproof. Puis là, il m'explique que c'est un client à nous. Ce qui est arrivé, c'est que la porte a été abîmée. Puis comme la porte était assez abîmée en l'ouvrant à la côté sur quelque chose, ils ont décidé de changer la porte, puis c'est 5 000$. Oh, ça me donnait une idée.
Donc, il y a un carproof.
Okay. Là, ça me donnait une idée que changer une porte d'Audi à cause d'électronique, puis tout ça, puis des
c'est
temps.
Plus cher c'est que celle de Mazda 5. Voilà.
On est d'accord.
Fait même là, s'il n'y a pas de vague dedans, c'est cher.
Fait que là, le char était... Puis là, le gars, il essaye de me vendre un démarreur à distance. Puis là, je me rends dans le coffre à gants. Je disais, hey, tu sais quoi, t'as oublié de pricer comme faut. Le démarreur à distance est déjà dedans. Fait que déjà, en partant, c'est... Puis il était tellement propre pour elle, c'était incroyable. Fait que, puis il était même pas encore shampooiné. Fait que j'ai dit, écoute, je vais te le prendre. Et le gars était quand même. Mais là, ça va dépendre du prix que tu me fais pour aller t'asseoir. Puis là, le gars, il parlait pas vraiment français non plus. Fait que, puis l'anglais, c'est sa deuxième langue. Fait que la discussion était plus froide que chez Audi Gabriel dans l'Est.
Ouais.
Ou
ouais.
Que eux, ben, salut mon ami, comment ça va, nanana. Mais j'étais arrivé là, puis dit, bon, le financement sur combien d'années? Je dis, non, il n'y en aura pas de financement. Content, tu sais, il ne pas être frappé.
Et là, il n'est pas content. Là.
Mais il n'est pas content parce qu'il a perdu le financement. Tu arrives, le gars en arrière, là, il dit. Là,
puis le gars en arrière, on appelle ça un directeur financier.
Oui, parce que ça, il prend un titre de l'AMF, tu sais. Donc, il dit, mon ami, ici. Fait que là, le gars, il dit, ça te prend un permis, fait qu'il faut que je sépare les tâches. Là, l'autre, il m'a déjà vendu la garantie. Il m'a déjà fait payer implicitement la garantie parce qu'il est obligé de ma vente pour un char certifié. Fait que j'arrive en arrière, le gars veut m'ajouter 3 ans de garantie pour 2 500$. Il a raison que sur une Audi, une réparation va me coûter ça, mais je dis, je suis pas capable de prendre ça. Après ça, il voulait me vendre des changements d'huile d'avance.
Bien sûr.
Après ça, il voulait me vendre. Écoute, j'ai pris une photo de tous les services qui étaient possibles d'avoir. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a. Il doit en avoir 10-15. Il y a du monde qui achète une voiture 30 000$ puis ils sortent avec 12 000$ d'options.
Absolument.
Ah, facilement.
L'assurance-vie. Ouais. Quand tu parles de conseil financier, là, ne jamais acheter d'assurance-vie chez le concessionnaire.
Ben, qu'est-ce que tu achètes chez le concessionnaire comme
un produit? Char. À part le véhicule, oui, c'est ça.
Mettons que je meurs. Venez saisir le véhicule. Puis si ta blonde ou ton chum veut le garder, t'as une assurance-vie ailleurs qui couvre.
Normalement,
on s'entend tout là-dessus.
Fait que ça, c'est vraiment...
Assurance-vie, invalidité, assurance de remplacement, tout ce que ça veut dire. Bon.
Même le remplacement, le tag, t'as-tu déjà entendu parler du tag?
Oui.
Le tag, chez le concessionnaire, il dit, ah, c'est 600$ plus taxe.
Ouais.
Mon premier réflexe, je sors de là, je suis allé me faire un tag ailleurs. Le tag ailleurs, chez Lobo, je vais s'en faire de plug avec ton assureur, c'est 250$.
Absolument.
Je rappelle le gars chez le concessionnaire, je dis, hey, le tag de suivi.
Oui, c'est 250$. C'est parce que le concessionnaire va faire venir Lobo pour te l'installer.
Oui, mais lui, il dit, nous, c'est bon pour 7 ans, lui, c'est juste bon pour 4 ans. Je dis, OK, on va faire un deal. Je vais le prendre pour 4 ans, je vais le rappeler dans 4 ans, 250$, je vais en faire installer un autre.
C'est
silence
ça.
Silence au bout de
l'œil. Oui, voilà, absolument.
C'est simple de même. Mais les gens ne prennent pas nécessairement le temps de magasiner comme ça. T'sais.
Non, mais moi, je suis froid. Oui. Mais j'ai
et
quand
le
même
le concessionnaire
un
va te le financer.
Et pour, pour la première fois de sa vie, il se promène dans un véhicule premium.
Oui. Hein? Ben, je
alors
me rappelle
là, il est fier de se stationner.
C'est comme quand tu passes du Johnny Walker au Macallan. Ou bien d'un. Ou bien du.
Je ne connais rien au scotch, mais je te crois.
OK, dans le vin, un ménage à trois, puis là, tu tombes dans le vin nature ou dans des vieilles gardes comme un Pontet Canet, là, tu fais oh, tabarouette,
oui,
on est ailleurs.
On est ailleurs complètement.
Alors là, je sors de toi l'autre jour, puis je m'en vais à l'école. Puis là, tu vois, ça influence les gens, la perception qu'ils ont. Moi, c'est bien bizarre quand même.
Puis, pas que je veux péter ta balloune, mais tu sais que le Audi Q5 blanc.
Il y en a plein.
C'est le véhicule le plus vendu chez Audi. Ah, il est noir, bon, okay. Ça, c'est l'autre.
Mais il y
couleur.
En a plein dans la rue. Je dis, OK, moi,
c'est
acheté usagé.
Là.
Si je l'ai acheté usagé, ce prix-là, eux autres, ils l'ont pas tout acheté usagé. Là.
Ben, il s'en vend 10 000 par année au Canada, de ces véhicules-là.
Ben, le Q5 progressif,
ouais.
Neuf, il est quand même, taxe incluse, 60 quelques mille. Pour te payer un char de 60 quelques mille, j'espère que tu fais 200-300 par année.
Ah, si tu savais.
Ben non.
Tu sais probablement plus que moi.
Et là, la question, est-ce que tu as troqué la casquette de la police contre une casquette Audi ou ton sentiment d'appartenance envers cette marque de luxe allemande n'est pas rendu si élevé?
Oui, il n'est pas élevé dans le sens que là, c'est un char pareil. Là, mais c'est juste que...
Mais c'est pas
là,
le néon
quand
non
j'embarque
plus.
Dedans, voilà. Là, pour vrai, puis là, ça va être drôle avec mon personnage, ça va faire plaisir à votre podcast. Là. Hey, c'est le fun. J'ai hâte de faire de la route en région avec, mais le problème, c'est que je ne peux pas aller en région. Fait que j'ai acheté un Q5, puis je vais à l'école. Je vais
puis là, il ne peut pas tirer ses clés sur le bord.
Non, hein, c'est ça, le bord est fermé.
Tirer ses clés, ça, c'est autre affaire. Je trouve ça gigant. J'aime bien mieux que tu tires ton actif net sur la table. Dis, j'ai investi dans ça, dans ça, dans ça. Ça m'impressionne plus que j'ai un gros char, parce que je pense que tout le monde peut se financer un char aujourd'hui.
Oui.
Je pense même que j'ai, du haut de ses 38 ans...
Faux, 25.
25? Je sais où c'est 25 ans. Il arrive, un concessionnaire, il montre même pas son T4.
25 hier, en passant.
Oui.
La semaine passée.
Non, mais ils vont te souhaiter bonne fête, puis ils vont te dire, bon, on va faire un paiement sur 22 ans, puis ça va être correct.
Ben oui. Tout est financé.
Mais là, t'as un défi, parce que tu sais qu'il y a quelques semaines, nous, on a fait l'essai d'une voiture qui avait été achetée usagée de quelques années, comme ce que tu viens de faire. La voiture n'avait pas beaucoup de kilométrage. Et la personne qui en a pris possession a roulé 1 million de kilomètres avec cette voiture-là en 11 ans.
C'est-tu le gars de Hyundai?
Une Hyundai Elantra. Oui, Hyundai Elantra. Alors, la voiture était dans le stationnement chez moi jusqu'à la semaine passée. Et je suis celui qui a passé le cap du million avec la voiture.
Mais c'est toi qui avais, à l'origine, étais-tu là quand il l'a acheté? Non.
Non, absolument pas. Okay. Mais j'ai su l'histoire. Mm-hmm. Elle était achetée dans un concessionnaire à Granby. La voiture avait 2 ans et demi d'âge, quelque chose comme ça.
Quelques mille kilomètres, pas plus.
Alors, lui a acheté la voiture et a fait une moyenne de 117 000 km par année pendant 11 ans avec l'auto. Pour finalement arriver à 999 000 km et des poussières et redonner la voiture au concessionnaire chez qui il s'est acheté une autre voiture neuve. Et son objectif, c'est de battre son record.
Il roule. J'ai jamais fait ça 1 million de kilomètres dans ma vie.
Mais la voiture a été entretenue et le message qu'on peut passer, c'est ça. Il n'y a rien de plus payant que d'entretenir une voiture et de la conserver longtemps. Ouais. Que tu l'achètes neuve ou usagée, si tu étires ça sur 10-12 ans, a fini par être rentable.
Il y a une affaire, par exemple. Un mauvais achat pour moi, pour vrai, là, ça a été la Subaru. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je l'avais acheté... au moment où il faut que tu changes ta timing belt. À l'époque, il y avait ça.
Oui.
Hein? Là, ta timing belt, en fait, c'est quoi la courroie de
distribution?
Distribution, c'est ça.
Eux, il faut qu'ils enlèvent le moteur parce que c'était compact.
Une job à 1500$.
Ah, puis l'autre affaire. Fait que finalement, cette réparation-là m'avait coûté 4000$. Sur une voiture que j'avais payé 14$ puis qui était rendue probablement à 7$. J'ai mis le dernier 4000 de trop sur cette vie. J'aurais dû la laisser aller. Tu sais, comme une relation que tu dois laisser aller. Celle-là, puis elle puis moi, on aurait dû mettre fin à notre relation, cette Subaru-là, plus vite. Donc, c'était des mauvais véhicules. Mais Honda, je suis vendu. C'est probablement le meilleur mariage que tu peux faire. C'est pas sexy. T'achètes une Honda, mais si t'achètes une Honda, tu peux te marier avec. Puis je pense que ta Honda peut te toffer plus longtemps que ta vie conjugale.
C'est peut-être un peu moins
vrai. Moins vrai maintenant. C'est le seul bémol. Mais si tu recules, justement, une Honda qui a peut-être 4 ou 5 ans, là, tu vas être bon pour faire...
Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'électronique. Là, c'est une autre affaire qui m'inquiète aujourd'hui.
T'as des moteurs atmosphériques. Aujourd'hui, ils ont des turbos. Bon, c'est plus...
Les autos, ils ont plein de détecteurs de mouvement, plein de patentes. Je dis, il y a tellement de technologie là-dessus. Quand ça pète, ça doit coûter tellement cher. Tandis que même la Mazda 5, j'ai même pas le Bluetooth sur la Mazda 5, il n'y a rien qui pète. J'ai juste changé un wiper, puis là, tu achètes tout ça usagé. Ça te coûte bien moins cher.
T'achètes des wipers usagés.
Le moteur, les phares usagés, tu sais, quand t'es brisé à cause de t'es déjà cogné contre un mur de ciment. Ça, j'ai tout fait ça. Puis c'est des jeunesses. Encore.
Là, Antoine, on n'a jamais fait une entrevue qui était si longue, pense. Il va falloir réinviter Pierre-Yves.
On va réinviter Pierre-Yves une
fois que quand mon véhicule va être plus vieux.
Voilà.
Mais moi, je veux juste glisser un mot, par exemple. Pierre-Yves a la chance, lui, à tous les jours, parce que je l'entendais en entrevue tout récemment dire qu'à chaque année, il cotise au maximum dans ses REER parce que ça le fait probablement triper de le faire.
Comme
parce,
vous autres, qu'il voit.
Moi, là, avoir 6, 7 ou 8 % de rendement dans un REER, ça m'excite
ça
zéro.
Émotion,
et c'est bien rare que je vais aller me coucher le soir en regardant mon ordinateur et en regardant mes rendements de mes REER. Ça arrive en fait jamais. Par contre, de m'acheter une voiture et savoir que je peux faire 15-20 % de profit en la revendant après l'avoir roulé 2 ans, ben je me dis, c'est quand même pas pire. Puis, la prémisse de base que j'ai quand j'achète une voiture aujourd'hui, qui n'a pas besoin d'avoir une voiture neuve, c'est est-ce que cette voiture-là risque de déprécier ne serait-ce que de 15 ou 20 % si oui, je ne l'achète pas.
Voilà. Okay, ben moi, j'ai vu que ça, toi. C'est quand la bourse remonte de façon spectaculaire, puis que tu as mis ton REER chaque année, puis que la bourse remonte plus cher que la valeur du véhicule que tu vas acheter, tu dis, mon véhicule vient d'être payé par la bourse, puis j'ai pas travaillé pour.
Ah, bon, une raison de plus pour acheter des autos.
On va rester dans le domaine de l'automobile, s'il vous plaît.
On rappelle, Pierre-Yves, que tu es comptable, animateur de l'émission L'Indice McSween à Télé-Québec et surtout auteur du nouveau livre Liberté 45 qu'on peut se procurer de maintenant.
Et fan de la collection de voitures de GG Gagnier.
Absolument. On l'est tous. Merci, Pierre-Yves, pour ton temps.
Salut.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Il y a comme un nouveau segment, Antoine, qui s'appelle les véhicules utilitaires sport compact hybrides rechargeables. Il y avait d'abord le Mitsubishi Outlander PHEV qui était finalement le seul acteur de ce segment-là.
Il y a le RAV4 que Pierre-Yves n'a pas acheté.
Et il y a un troisième joueur dont on a quand même moins parlé que le RAV4, et c'est le Ford Escape hybride rechargeable lui aussi.
Ouais. Alors, on avait eu la chance au cours du mois de juillet dernier au Guide de l'auto de réussir à rassembler ces trois véhicules-là, le Ford étant un véhicule de pré-production, le RAV4 également, parce que les véhicules allaient arriver sur le marché un peu plus tard, mais on voulait avoir ces véhicules-là dans le guide de l'auto pour effectuer un match comparatif, parce que ce sont des véhicules qui sont importants pour notre marché. On sait que les VUS compacts sont très populaires, on cherche des véhicules hybrides, on cherche de l'électrification, et ces véhicules-là rassemblent tout ça dans une même formule. Alors, c'était génial pour nos besoins à nous. Et on a réussi ce tour de force-là de rassembler les trois véhicules. On en était bien fiers. Et j'avais même tourné à la suite du match comparatif qu'on avait réalisé pour le guide de l'auto. Une petite capsule que j'étais prêt à mettre en ligne. Mais en demandant aux gens de Ford, parce qu'évidemment, on a retourné les véhicules tout de suite après, le véhicule est reparti vers les États-Unis. Et on était en fait au guide de l'auto les seuls à avoir conduit l'Escape hybride de PHEV. Mais là, je posais la question aux gens de Ford. Finalement, il arrive quand l'Escape, là? Puis quand est-ce que je vais pouvoir mettre mon vidéo en ligne? Puis bon. Et attends, il y a un embargo du côté des États-Unis, c'est long, puis là, ça se faisait attendre. Finalement, le guide de l'auto sort, le Ford Escape hybride est dedans. Je rappelle les gens de Ford, c'est encore la même chose. Et là, il y a vraiment anguille sous roche, et on apprenait cette semaine que Ford a retardé, finalement, la commercialisation de ce véhicule-là au printemps 2021. Ce qui veut dire que on repousse la disponibilité du véhicule de pas un an, mais pratiquement un an.
Et ça, c'est si on n'a pas d'autres délais d'ici le printemps prochain. Bon. Là.
Et ce qui est ironique, c'est que si vous allez en ligne aujourd'hui sur le site de Ford du Canada, vous pouvez aller configurer un Escape hybride rechargeable 2020, pas 2021, mais 2020, qu'on vous finance à un taux de 0,99% jusqu'à un terme de 84 mois. Alors moi, ça me fait bien rire parce que le véhicule n'a jamais existé et n'existera jamais. Alors moi, j'ai trouvé ça fâchant, voire même insultant de voir que Ford nous fait croire encore une fois qu'ils sont une compagnie où on a un souci environnemental, où on veut pousser l'électrification des véhicules. Et qu'est-ce qu'on a fait cette année? Bien, on a annulé la disponibilité de cet Escape-là qui va être repoussé de près d'un an. Et on repousse également le Ford Mustang Mach-E qui devait arriver au mois d'août et qui finalement...
Qui devait être 100% électrique.
Devrait toucher le sol en décembre si tout va bien ici au Québec et ça va rentrer au compte-gouttes. Alors, en téléphonant chez Ford, j'ai posé la question, OK, mais c'est quoi les raisons? Ouais, bien, il y a une disponibilité de batterie. Bullshit, parce que le Ford F-150 hybride, lui, il y en a des batteries, puis il arrive la semaine prochaine. Puis l'Explorer hybride, il y en a des batteries, puis il est chez le concessionnaire. Alors, à un moment donné, t'en prends, puis t'en laisses. Puis on va évidemment nommer le COVID.
Oui, qui a le dos très large.
Ben, ouais, absolument.
On sait que ça a eu des répercussions, mais de là à expliquer un délai de presque un an pour un véhicule...
T'as tout compris. Alors, j'ai creusé la chose un peu plus loin pour réaliser que le nouveau Escape qui est arrivé en 2020...
Ouais.
Ne connaissait
avec
pas...
Avec moteur à essence. Là.
Avec moteur à essence. Donc
L'Escape régulier.
L'Escape régulier et l'hybride. Ce véhicule-là est arrivé en 2020. Vous allez dire au bien mauvais moment, oui, mais tout le monde a souffert de l'année 2020 jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et je suis allé vérifier quels étaient les chiffres de vente pour le marché des VUS compacts au Canada depuis le début de l'année 2020 pour constater que une baisse moyenne de vente par rapport à l'année précédente de 28 % s'était passé cette année. Donc, si tu cumules l'ensemble des VUS compacts du marché et que tu fais la moyenne des baisses de vente en pourcentage par rapport à 2019, ben ça a baissé de 28 % Le RAV4 a perdu 14 % le Forester 13 % le Hyundai Tucson autour de 25, on est là. Et le Ford Escape...
Qui lui est tout nouveau, là.
Flambant neuf, récemment débarqué, nouvelle technologie, etc., etc., 42 % de baisse de vente.
Donc, c'est autant dire qu'il ne pogne pas du tout, là, bon, le nouvel Escape.
C'est ça. Alors, le succès n'est pas au rendez-vous. Ça colle dans les cours des concessionnaires. On n'est pas capable de s'en défaire. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens chez Ford aux États-Unis qui ont dit, bon... on ne commencera pas à débarquer avec des hybrides rechargeables si on n'est pas capable de vendre ceux qu'on a là. Il y a aussi le Bronco Sport, dérivé de l'Escape actuel qui va arriver sur le marché très prochainement.
D'ici la fin de l'année, nous dit-on?
C'est ça. Alors, est-ce que ce véhicule-là va faire en sorte qu'on change la stratégie autour de l'Escape? On ne sait pas. Mais j'ai aussi le feeling qu'on est peut-être retourné, je dirais, sur la table à dessin, parce que Ford est un peu victime dans cette histoire-là aussi par rapport à Toyota, puisque même si on a des émissions polluantes qui sont comparables à celles du RAV4 Prime, ben le fait qu'on ait une batterie un peu plus petite que celle du RAV4 fait en sorte que le crédit gouvernemental applicable n'est que de 6 500 $, alors que...
Comparativement à 8 000 pour le RAV4.
Comparativement à 13 000 pour le RAV4. Alors là, on est désavantagé. Alors, est-ce qu'on serait retourné à la table à dessin développer une batterie juste un peu plus grosse qui permettrait à Ford de vendre des véhicules au Canada avec un plein crédit gouvernemental? C'est une autre possibilité, mais évidemment, Ford ne nous le dira pas. Puis pendant ce temps-là, ben, on va continuer à vendre des véhicules réguliers parce que, regarde, au final, là, des véhicules verts, on n'en a plus. On a abandonné la fusion hybride rechargeable. On n'a plus aucun véhicule rechargeable pour l'instant de disponible sur le marché.
Pendant ce temps-là, ben, Toyota continue de remplir son carnet de commandes pour le RAV4 Prime. Là.
Bon, alors, est-ce qu'on est vraiment sérieux chez Ford? Encore une fois, je me pose la question, mais je trouve ça vraiment insultant qu'on nous laisse croire qu'on a des belles intentions puis qu'à chaque fois, ben ça fasse pouette-pouette. Je croirai à l'Escape hybride rechargeable lorsqu'il arrivera sur le marché, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on n'aura pas d'autres délais. Et il va falloir qu'on retourne pas juste sur la table à dessin pour les batteries de l'Escape, mais il va falloir qu'on repense complètement le plan stratégique de l'Escape actuel. Et ça commence par des versions hybrides plus abordables, par la disponibilité à plus bas prix du moteur 2 litres, parce que personne ne veut avoir le dernier 3 cylindres.
C'est un vrai problème, là, le moteur de base qui est un 3 cylindres.
Et ça va être la même chose dans le Bronco Sport.
Voilà, on s'en sort pas.
Alors, j'ai bien hâte de voir ce que Ford va faire avec ça, mais encore une fois, pas de véhicule rechargeable, alors qu'on nous avait promis ça et qu'on nous annonçait même des taux de financement extraordinaires à 0,9%. Je trouve ça super ordinaire.
Bien, on va suivre ça de près. Bonne semaine, Antoine. Bonne semaine à tout le monde à la maison.
Cube Radio.